Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Marie Duhamel.
Le peuple d'Israël vous attend. Shimon Peres a invité le pape à se rendre à Jérusalem. Le président israélien prix Nobel de la paix de 1994 a été reçu par François au Vatican. Situation inédite, bientôt deux papes dans l'enceinte du Vatican. Benoît XVI quittera Castel Gandolfo le 2 mai prochain. Il rejoindra la cité du Vatican vers 16h30-17h et vivra en prière dans le couvent Mater Ecclesiae qui s'y trouve. Décès en Chine de l'évêque coadjuteur de Shanghai, fait exceptionnel, la secrétaire d'État publie une note relatant la vie de Mgr Jing Luxian, emprisonné en raison de sa foi, consacré évêque sans l'approbation du Saint-Siège avant d'être réhabilité 15 ans plus tard. Nous revenons sur la vie de cette personnalité clé dans l'histoire de l'Église de Chine. Et puis il y a 40 ans maintenant disparaissait Jacques Maritain. Converti au catholicisme, il fut l'une des figures intellectuelles majeures du XXe siècle. On en parle avec Mgr Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission en langue française de Radio Vatican. Le pape François a été invité à Jérusalem à l'occasion d'une visite officielle de 3 jours en Italie. Le président israélien a été reçu en audience par François ce mardi matin au palais apostolique du Vatican. Pendant une trentaine de minutes, les deux hommes ont parlé de la situation politique et sociale du Proche-Orient, des conflits qui le déchirent. C'est ce que nous explique un communiqué officiel de la salle de presse du Saint-Siège, Xavier Sartre.
La recherche de la paix, c'est le cœur de l'entretien entre les deux hommes qui ont exprimé leur souhait de voir reprendre rapidement les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Le Saint-Siège a réitéré sa position sur ce dossier pour ramener la paix et la stabilité dans la région. Il attend des décisions courageuses et la disponibilité des deux parties avec le soutien de la communauté internationale pour qu'un accord respectueux des aspirations légitimes des deux peuples soit trouvé. Une logique de la réconciliation et du dialogue préconisée également pour résoudre la question de Jérusalem et du conflit syrien, sujet de préoccupation aussi bien pour le Saint-Siège que pour l'État hébreu. Les questions bilatérales n'ont pas été oubliées. Le pape et le président israélien ont évoqué les questions concernant les relations entre les autorités étatiques et les communautés catholiques locales. L'occasion de se féliciter des progrès notables enregistrés par la commission bilatérale de travail, engagée dans l'élaboration d'un accord sur les questions d'intérêt commun. Signe de l'entente qui règne entre les deux États, Shimon Peres a invité le pape François à se rendre prochainement à Jérusalem.
Et ce mercredi 1er mai, Shimon Peres est attendu dans la ville d'Assise où il sera fait citoyen d'honneur pour la paix. Comme à son habitude, le pape a présidé la messe dans la chapelle Sainte-Marthe et c'était ce mardi les salariés de l'administration du patrimoine du Saint-Siège qui assistaient à cette célébration. Le pape a à nouveau dénoncé dans son homélie les mondanités. Quand l'Église devient mondaine, a-t-il dit, elle devient faible. Que le Seigneur nous rende fort, a dit le pape, que nous ne perdions pas la foi et l'espérance. Le pape a également confié au Seigneur et prié pour les personnes âgées, malades, les enfants et les jeunes. Et plus tard dans la journée, à 11h40, nouveau tweet du pape François en 9 langues, « Ayons confiance en l'action de Dieu. Avec lui, nous pouvons faire de grandes choses. Il nous fera sentir la joie d'être ses disciples. » Le compte du pape sur Twitter a atteint les 6 millions de followers. Le pape François a hérité des 3,3 millions d'abonnés de Benoît XVI, mais l'adresse @pontifex depuis son élection le 13 mars dernier a engrangé en moyenne 60 000 abonnés de plus par jour. L'adresse la plus suivie est celle de langue anglaise avec 2 446 000 abonnés. On reparle de la réforme de la curie. Sur Twitter, là aussi sur le réseau social, l'Osservatore Romano publie en avance quelques extraits d'un entretien qu'il publiera prochainement avec le substitut pour les affaires générales de la secrétaire d'État du Saint-Siège. Le numéro 2 du plus important dicaster estime qu'il est prématuré d'avancer une quelconque hypothèse concernant la future réforme de la curie. Le pape consulte chacun, se garde le droit de se décider plus tard. Monseigneur Giovanni Angelo Becciu affirme en outre que François s'est dit surpris par des phrases qu'on lui attribue sur le IOR, la Banque du Vatican, et qu'il n'a jamais prononcé ni qui ont traversé son esprit. Un épiscopat en deuil, c'est le titre d'une note publiée ce mardi par la secrétaire d'État. Fait peu habituel, fait même exceptionnel, elle semble rendre hommage à une figure centrale et complexe pourtant de la République populaire de Chine. Monseigneur Aloysius Luxan est décédé samedi dernier à l'âge de 97 ans. Pour le Saint-Siège, il était l'évêque coadjuteur de Shanghai. Pour Pékin, c'était l'évêque officiel de la mégalopole chinoise. Dans sa note, la secrétaire d'État revient sur la figure de Monseigneur Jin, qui, je cite, a cherché à maintenir vivant l'amour du Christ et de l'Église, tout en restant loyal envers son propre pays et sa propre culture. Retour sur une vie pas comme les autres, avec Jean-Baptiste Cocagne.
Né en 1916 dans une famille qu'il présentait comme catholique depuis 10 générations et orphelin très jeune, il fréquenta les jésuites dès l'âge de 10 ans. Attiré par la spiritualité et la vie de la Compagnie de Jésus, il commença son noviciat en 1938 et fut ordonné prêtre en 1945. Entre 1947 et 1950, il vient étudier en Europe, d'abord à Paris, puis à l'université grégorienne de Rome, devenant ainsi polyglotte. En 1950, il est rappelé en Chine, alors que les jésuites d'origine étrangère avaient été, eux, expulsés. C'est l'avènement de la République populaire. Il devient recteur du séminaire régional de Xukui à Shanghai. Dans la métropole orientale, un symbole de compromission avec les impérialistes pour les nouveaux maîtres du pays, la communauté catholique est soupçonnée de vouloir saper la révolution. Le père Jin est arrêté en septembre 1955 avec des centaines de catholiques. Condamné à 18 ans de prison, il ne fut relâché que 27 ans plus tard, après avoir été interné dans une prison de Pékin et dans deux centres de rééducation. Libre donc en 1982, à la faveur des réformes de Deng Xiaoping, il put rouvrir le séminaire de Shenzhen et fut consacré évêque du diocèse de Shanghai en 1985, mais sans l'approbation du Saint-Siège. Un choix que l'Église d'Asie qualifie d'ambigu. Monseigneur Jin s'en expliquera plus tard, les communistes sachant tout, il était vain de vouloir agir dans la clandestinité. Or, après la révolution culturelle, l'urgence était pour lui de reconstruire l'Église. Finalement, Monseigneur Jin obtient l'approbation du Saint-Siège que 15 ans plus tard, en 2000, rapporte la secrétaire d'État du Vatican, après avoir manifesté sa fidélité au pape et après avoir demandé pardon pour son ordination illégitime.
Et la note parle enfin d'un personnage clé dans l'histoire de l'Église catholique en Chine durant ces 50 dernières années. Monseigneur Jin était un homme d'une grande culture et développa le diocèse de Shanghai, s'engagea activement dans la préparation des nouveaux prêtres et religieuses. Selon cette note de la secrétaire d'État, le diocèse de Shanghai compte aujourd'hui 150 000 fidèles, une centaine de prêtres dans 140 églises. Ils seront nombreux à lui rendre hommage lors d'une cérémonie à la mémoire de Monseigneur Jin qui aura lieu le 2 mai prochain. Mais déjà, les autorités avaient tout prévu pour ses funérailles. Elles ont eu lieu ce lundi 29 avril en la cathédrale Saint-Ignace à Shanghai. On en parle avec Régis Anouilh, rédacteur en chef de l'Agence des missions étrangères de Paris, Église d'Asie.
Sa politique ou ce qu'il avait mis en œuvre est à la fois un succès et un échec. C'est un succès parce que justement, lors de ses obsèques, il n'y avait que les prêtres de Shanghai pour célébrer son départ vers la maison du Père. Il n'y avait aucun évêque officiel inacceptable au point de vue des catholiques, au point de vue de Rome, c'est-à-dire aucun évêque excommunié ou qui ne soit pas en communion avec Rome. C'est donc la marque de son succès, de la politique qu'il avait menée depuis ses 20 ou 30 dernières années, de développer l'Église au sein des structures officielles de l'Église catholique en Chine, mais sans que cette immixtion du gouvernement sur son Église de Shanghai soit trop forte. C'est à la fois son échec également, parce que ces obsèques, justement, si elles n'ont été célébrées qu'en présence des prêtres de Shanghai, elles n'ont pas été célébrées en présence de l'évêque coadjuteur qu'il avait réussi à faire accepter par Pékin, qui avait été nommé par le Saint-Siège. Donc c'est l'échec de Monseigneur Jin, en ce sens qu'il avait réussi à avoir un successeur accepté, acceptable par les deux parties, Pékin et Rome, et ce successeur vient être empêché d'agir en tant qu'évêque.
Monseigneur Jin, finalement, son bilan, il est positif ou négatif, selon vous, pour l'Église en Chine?
C'est très difficile de le dire. Il avait Il est certainement positif dans la mesure où ce diocèse de Shanghai est un des plus grands, sinon le plus grand de l'Église en Chine au point de vue du nombre des fidèles. C'est aussi un des plus prospères économiquement. Il a reconstruit les églises. C'est un des plus prospères en termes de formation. Il a reconstruit le grand séminaire de Shoshan qui forme des prêtres pour toute une partie de l'Église en Chine. C'est donc sans conteste un succès. C'est aussi une difficulté ou un échec dans la mesure où les compromis qu'il avait passés, notamment en 1985, cette acceptation de l'ordination de devenir évêque de Shanghai sans l'approbation du Saint-Père, il ne sera légitimé que près d'une vingtaine d'années plus tard. Et bien effectivement, il n'avait pas été compris dans la Compagnie de Jésus, il n'avait pas été compris non plus à Rome. Les choix qu'il avait posés à cette époque, qu'il estimait être indispensables puisque les communistes étaient là et de fait ils sont toujours là au pouvoir. Il faut néanmoins pour cette église trouver des ressources pour se développer. Lui, effectivement, avait choisi cette voie étroite et difficile, des compromis, et certains disent des compromissions avec le régime.
Aujourd'hui, au Vatican, la secrétaire d'État a publié une note pour annoncer la mort de Mgr Jin. Comment interprétez-vous ce geste ?
C'est bien le signe que les compromissions dont je parlais à l'instant sont des choses qui n'ont pas toujours été comprises par le passé, mais qui aujourd'hui sont comprises. Du fait de cette situation très particulière, d'un régime politique qui laisse l'Église se développer, mais tout en voulant la contrôler de l'intérieur, le Saint-Siège, pendant longtemps, sans doute, n'a pas toujours pris la mesure des pressions, le poids des responsables de l'Église locale. Aujourd'hui, les choses se sont apaisées. Mgr Jin, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, avait été reconnu en tant qu'évêque. Il était donc en pleine communion avec le corps épiscopal de l'Église universelle. Aujourd'hui, le secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui est un Chinois de Hong Kong, originaire de Shanghai, si je me rappelle bien, Mgr Savio Hontai-Fai, avait exprimé le désir de pouvoir se rendre à Shanghai pour ses obsèques. Il n'a pas pu le faire, bien sûr. Mais néanmoins, voilà, ce sont des gestes que le Saint-Siège pose pour bien dire que Mgr Jin était en communion avec lui et donc que la prière des fidèles lui est nécessaire.
Au Vietnam, le comité populaire du district de Trang Bum dans le diocèse de Hoan Loc a envoyé une lettre de rappel aux 28 prêtres de la région. Ils écopent d'un blâme pour avoir comportement jugé incorrect par les autorités, diffusé dans leur paroisse via leurs homélies, des photocopies ou des affichages, le texte des évêques appelant à une refonte de la Constitution. Dans une lettre ouverte publiée le 1er mars dernier, les évêques vietnamiens mettaient en effet en cause le bien fondé de certains points fondamentaux de la Constitution, tout particulièrement le rôle attribué au Parti communiste dans la politique et la société vietnamienne. Situation inédite et qui suscite la curiosité de nombreux fidèles et journalistes. Il y aura bientôt deux papes au Vatican, l'un en exercice, l'autre émérite. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a confirmé le retour de Benoît XVI au Vatican. Le pape émérite est attendu le 2 mai vers 16h30-17h au couvent Mater Ecclesiae, où il demeurera dans l'enceinte de la cité du Vatican. Benoît XVI quittera en hélicoptère la résidence d'été des papes de Castel Gandolfo, résidence où il vit depuis le 28 février dernier, début de la vacance apostolique avant le conclave et l'élection du pape François. Sur les traces de son prédécesseur, François fera étape lui aussi au sanctuaire marial d'Aparecida en juillet 2013, lors de son déplacement au Brésil pour les Journées mondiales de la jeunesse. L'organisateur des voyages pontificaux, Alberto Gasbari, l'a assuré aux évêques brésiliens qu'il annonce sur leur site ce mardi, le site de la conférence épiscopale du Brésil. En mai 2007, Benoît XVI s'y était déjà rendu afin d'ouvrir les travaux du conseil épiscopal latino-américain, le CELAM, travaux auxquels le cardinal Bergoglio avait alors amplement participé. Le programme complet du déplacement du pape François au Brésil sera rendu public le 7 mai prochain. Il y a tout juste 40 ans, le 28 avril 1973, disparaissait Jacques Maritain. Né en 1882, converti au christianisme en 1906, il fut l'une des figures intellectuelles majeures du XXe siècle. Étudiant à la Sorbonne au tournant du siècle, il rencontre Raïssa Oumansoff, fille d'immigrés juifs arrivés à Paris en 1893. Il se marie en 1904, leur couple restera l'un des plus féconds, aussi bien spirituellement qu'intellectuellement. Auteur d'une œuvre considérable traversée par un grand esprit de liberté, sa curiosité intellectuelle et son envergure spirituelle vont le faire dialoguer avec nombre de ses contemporains. Que signifie la pensée de Maritain pour notre monde contemporain? Justement, c'était la question au cœur d'une conférence organisée le 29 avril au Centre culturel Saint-Louis à Rome, un centre fondé par Maritain lui-même. Parmi les intervenants, Mgr Charles Morero, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg en Suisse.
D'abord, il a parlé de beaucoup de sujets différents et il s'est toujours intéressé, et c'est même la raison pour laquelle il a parlé de sujets différents, à ce qui se passait à son époque, c'est-à-dire aux événements culturels et politiques. Et il a utilisé la pensée de saint Thomas d'Aquin, non pas de manière, si on peut dire, défensive, mais avec sympathie pour son époque, en essayant d'y répondre, ce qui ne signifie pas qu'il était toujours accommodant d'une certaine manière. Mais en tout cas, il arrivait à voir ce qui, dans les événements culturels ou politiques, pouvait être expliqué et renforcé à l'aide de la pensée de saint Thomas, je pense.
On sait qu'aujourd'hui, nos sociétés occidentales, la société française en particulier, est traversée par des débats culturels et sociétaux très forts, qui marquent des clivages. Est-ce qu'on manque aujourd'hui d'envergure, de carrure, de figure intellectuelle de la trempe d'un Maritain?
On a un peu l'impression, quand on regarde notre époque, qu'on manque un peu de figure d'envergure dans le domaine philosophique et dans le domaine politique, si j'ose dire. Maritain en était une, je pense, un peu oubliée. Mais, par exemple, une chose qui me semble trop peu présente actuellement, et tant mieux si je me trompe, c'est des philosophes catholiques. Dans les débats de société, il serait particulièrement utile d'avoir des philosophes qui puissent expliquer que ce que beaucoup de catholiques veulent défendre et ce que l'Église tient assez souvent, ce ne sont pas purement et simplement des conséquences de la foi. Et c'est l'impression qu'on donne quand on parle immédiatement de théologie ou d'arguments typiquement religieux, mais procède d'une réflexion sur ce qu'est par exemple l'être humain.
Maritain, aujourd'hui, nous rappelle qu'on peut articuler la foi à la raison. En quoi cette figure est-elle importante pour les catholiques d'aujourd'hui en 2013?
Je dirais en quoi elle pourrait être importante, parce que il faut bien dire qu'au moins en Europe, on ne se souvient plus beaucoup de Maritain. J'ai l'impression, je suis même assez sûr, qu'il est plus populaire en Amérique latine. Je sais que Maritain est assez étudié encore en Argentine, par exemple. Évidemment, ce n'est pas le seul pays, mais je le cite à cause du pape. En Europe, on s'en souvient assez peu. Mais il y a des effets de mode, ça pourrait revenir, il mérite d'être découvert.
Comment vous expliquez qu'en Occident en particulier, il soit un peu tombé en désuétude?
Je pense que certains ont eu l'impression, après le Concile Vatican II, que le thomisme était un peu dépassé. Ce n'est pas totalement justifié par les textes du Concile Vatican II, qui recommande à plusieurs reprises l'étude de saint Thomas et s'en inspire aussi, mais c'est peut-être un peu le fait qu'avant Vatican II, saint Thomas était encore en quelque sorte une pensée obligatoire. Quand elle a cessé d'être obligatoire, il y a eu un mouvement en quelque sorte de libération. Et on n'a pas vu que chez quelqu'un comme Maritain, il y avait, à l'aide même de saint Thomas, une pensée qui favorisait à bien des égards la liberté et la défendait. On a mis des oppositions qui n'étaient pas nécessaires.
Si vous aviez une clé de lecture à proposer à quelqu'un qui connaît mal ou ne connaît pas Maritain, quelqu'un qui ne l'a pas lu, quelle serait-elle?
J'essaierais de partir des intérêts de cette personne, suivant que ses intérêts sont plus strictement philosophiques, métaphysiques, logiques, historiques, ou politique ou artistique. Il y a plusieurs portes d'entrée chez Maritain.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel, et pour en savoir plus, retrouver aussi cet entretien, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. À la veille du 1er mai, traditionnelle fête des travailleurs dans de nombreux pays, le Conseil Église et Société de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec parle des récents mouvements sociaux contre la réforme de l'assurance-emploi. L'Église souhaite porter, elle aussi, un regard de foi sur ces réveils populaires, multiplier leur potentiel de redistribution de la richesse et d'inclusion sociale. L'Église dénonce les idéologies néfastes qui conditionnent les pouvoirs économiques et financiers, nuisant aux travailleurs, aux travailleuses, à leurs familles et à leurs régions. Dans ce message, les évêques mettent aussi en lumière l'espérance soulevée par les réveils, surtout le pouvoir populaire de transformer des structures qui appauvrissent, excluent et opprime un nombre croissant d'humains. L'Église entend apporter sa pierre à la réflexion. Elle participera aux Journées sociales du Québec du 24 au 26 mai prochain à Rimouski. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican.